Bon, on va commencer par des brèves et ensuite on parlera de bombes ou palettes de nourriture, comment nettoyer un territoire, et j'imagine que vous savez qu'on va aller du côté de Gaza. Et ensuite on aura une rubrique de il faut que ça sache, où on parlera des méthodes policières sur les exilés en France. Et de l'expulsion d'un Kurde en Belgique ou en France, je sais plus.
En France. Pourquoi ? Il y a l'air d'avoir un petit problème de CD qui va se régler, il charge.
Et on peut commencer par la brève.
C'est une brève, je vais la faire, voilà, j'aurai pas de musique de fond, tant pis.
De toute façon, t'as décidé de râler sur les brèves en ce moment.
La qualité du Scanu Info est vraiment...
Ah non, ça revient. Le Premier ministre de la France, Gabriel Attal, a convoqué aujourd'hui un séminaire gouvernemental sur le thème de l'emploi. Il faut comprendre une réunion pour voir ce qu'il est encore possible d'enlever aux chômeurs, comme droit, comme argent, comme temps d'indemnisation. Comment continuer à bousiller le système qui fait que si on se retrouve sans boulot, on peut ne pas crever de faim pendant quelques temps. Alors, il devrait a priori parler ce soir à la Téloche, juste après le Canu Info, mais si vous préférez rester sur Canu et écouter Idées Noires, je peux déjà vous faire un résumé de ce qu'il dira. Il dira « Les chômeurs sont des grosses feignasses, on va les remettre au boulot, plus un centime et travaux forcés pour ceux qui insisteront ». Voilà, rappelons, même si ça n'a bien sûr absolument rien à voir, que l'évasion fiscale est estimée à un montant entre 80 et 100 milliards d'euros par an pour la France.
Bah ça, c'est tous les chômeurs qui vont mettre leur pognon dissimulé les îles Caïmans. Je peux te faire le générique.
Allez, vas-y, fais-moi une petite virgule. Alors je disais fais-moi parce que c'est à nouveau moi qui parle après. Et voilà, on en parlait il y a 3 semaines. La France est super championne des ventes d'armes mondiales. Dans la foulée, on se demandait, puisque ces informations sont pas mal confidentielles, si certaines de ces armes servaient au massacre dans la bande de Gaza, au même moment où la diplomatie française dénonce pas mal, disons, les excès de massacre.
Mais c'est bien dit, je trouve.
Oui, parce que c'est un peu compliqué de qualifier la position française de manière précise dans ce domaine. Mais il y a 3 semaines, on se demandait dans le vide. Alors voilà, on a sans doute la réponse grâce à l'enquête de 2 journalistes du site d'info en ligne Disclose avec leur pote de Mars Actu. Signalons en passant qu'une de ces 2 journalistes autrices de l'enquête dont on va parler est Ariane Lavrieux, qui avait déjà passé 2 jours en garde à vue il y a quelques mois suite à un article qu'elle avait déjà écrit sur le même site et déjà à propos de ventes d'armes que la France préférait, ma foi, garder discrètes.
Et que deux autres journalistes avaient déjà fait un passage en garde à vue pour une autre histoire d'enquête, je crois, sur du secret militaire encore.
Décidément, c'est ça. Non, mais décidément, ça vaut le coup de regarder ce site Disclose. Bref, voilà, c'est sûr et certain, la France fourgue du matos militaire à Israël. Alors, plusieurs choses différentes, avec des versions différentes et de ce que le matos devient. Premièrement, il y a ce que le gouvernement français admet volontiers, puisque ça a même l'air plutôt humaniste et sympa. Par exemple, le ministre des Armées qui en parlait devant la commission de la Défense nationale... Ah, j'avais une date, mais je n'ai pas dû l'écrire finalement, mais c'était en février. Il s'agit en gros de boulons et de roulements à billes. Donc déjà, ça a l'air pas méchant, mais en fait, de fait... Et ça sert surtout à ce qu'on appelle en Israël le dôme de fer. C'est le système de missiles antimissiles qui servent à protéger la population, pour le coup civile israélienne, contre les roquettes tirées de Gaza. C'est des armes qui sont censées être purement défensives, ça veut dire qu'on ne peut pas trop tuer qui que ce soit avec, et donc ça protège la vie de civils. Donc là-dessus, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, n'a pas de problème à parler de ça. Sauf que là, les 2 journalistes qui signent l'enquête dont je vous parle ont mis la main sur des photos d'un dépôt à Marseille, un hangar qui appartient à Eurolinks, une société marseillaise spécialisée dans la fabrication d'équipements militaires. Bon, en gros, des gens qui fabriquent des armes. Sur un bordereau scotché sur un carton entouré de cellophane, on peut lire l'inscription. Alors, c'est en anglais, mais je traduis plutôt que de vous la dire en anglais. 10 000 liens M27 pour des munitions de 5,56 mm. En clair, on parle d'une caisse de petits clips qui servent à attacher ensemble les munitions d'une arme automatique. Vous voyez les espèces de machins pointus là où on voit à la télé, qui vont partir pour rentrer dans les gens. Et ben avant, pour qu'ils puissent passer très vite dans l'arme qui va les envoyer, elles sont plus ou moins agrafées ensemble, quoi.
On sent le niveau de technicité.
Ouais, c'est non mais moi je suis un grand spécialiste des armes. J'ai fait
N'importe qui a joué à un jeu vidéo de guerre en tête, quoi.
Non mais moi j'ai même pas joué à un jeu vidéo de guerre, malheureusement je suis pas un spécialiste. Mais bon voilà, des petits clips, quoi. Alors l'article que vous pouvez aller voir si vous voulez plus de détails que ce que je vais vous en donner explique quelles balles sont utilisées par quelles armes, des armes produites en France, des armes produites en Israël, des balles produites pour des armes françaises mais qui peuvent très bien marcher sur des armes israéliennes. Et explique aussi que les munitions de calibre 5,56, c'est-à-dire celles qui sont liées par ces clips, sont celles qui, pour le coup, servent justement en ce moment tous les jours dans la bande de Gaza. Et par exemple, le 29 février dernier, au moment où l'armée israélienne a tiré sur une foule affamée qui se bousculait pour avoir accès à une distribution de nourriture. Je ne sais pas dans quelle mesure vous vous souvenez de cette histoire, mais il y avait quand même eu 112 morts et plusieurs centaines de blessés. Et donc voilà, ce jour-là, la France n'avait donc fourni ni les armes, ni les munitions. Mais quand même, peut-être un petit élément indispensable pour que les munitions puissent sortir des armes en direction des corps des gens. Avant la publication de l'enquête, Disclose a cherché à joindre le ministre des Armées et aussi le PDG de Eurolinks. Aucun des deux n'a eu le moindre seconde pour répondre à l'interview. Mais une fois que l'enquête a été publiée et qu'elle a été un petit peu lue et qu'il y a eu des réactions à droite à gauche, il n'y a pas fallu longtemps pour que chacun des deux réagisse. Et bon, ils disent en gros c'est le ministre qui a commencé, mais le PDG de Rowling a répété la même chose. La défense, c'est que oui, c'est vrai, ces clips sont bel et bien livrés à l'entreprise israélienne IMI System. Mais voilà, c'est pas pour tirer sur des civils gazaouis. Ces petits éléments sont livrés avec une licence qui n'autorise pas à s'en servir, qui n'autorise pas les Israéliens à s'en servir, qui n'autorise qu'à les revendre pour l'exportation. Donc l'idée, ça serait que Israël importerait ces éléments, nécessaires donc aux armes automatiques des militaires israéliens, utilisés tous les jours par les militaires israéliens pour tuer des civils palestiniens, mais... En fait, les caisses françaises en arrivant en Israël et donc à l'entreprise IMI System seraient bien différenciées d'autres caisses des mêmes éléments qui, eux, seraient produits tendus en dehors d'Israël et les autres seraient utilisés, comme qui dirait, sur place. Bon, allez savoir, on n'est pas sûr que ça soit pas vrai, finalement. Peut-être. Faut juste avoir confiance, en fait. Et encore une fois, de toute façon, il faut aussi accepter de croire que quand on vend des armes, à la fin, c'est pas pour faire du mal aux gens, puisque quand bien même les Israéliens revendraient ces trucs-là, ça serait étonnant que ces petits clips ne finissent pas par attacher des balles qui vont rentrer dans des corps de civils. Puisque c'est un peu à ça que servent les balles. Mais, alors en vrai... Tout ça pour dire que malgré tout, ceux qui vendent beaucoup d'armes qui tuent des Palestiniens, il n'y a pas de mystère, c'est quand même la France en vend un peu, du coup en vend certainement un peu, mais quand même ceux qui font le gros du boulot, c'est quand même bien les États-Unis qui vendent 69% des armes importées par les Israéliens et l'Allemagne 30%, donc il reste 1% pour se partager pour tous les autres fournisseurs d'armes. Alors bizarrement, c'est aussi les deux pays, les États-Unis et l'Allemagne, les deux pays les plus acharnés à parachuter des colis alimentaires sur Gaza. Et quand je dis acharnés, vous allez voir, ils sont acharnés. Enfin, vous allez voir, peut-être vous avez déjà vu, parce qu'à la fin, je vous fais de la vieille info là. Cette aide alimentaire qui est censée soulager un peu la famine, créée donc grâce à leurs armes, à l'Allemagne et aux États-Unis, est, comme on l'a expliqué la semaine dernière, une goutte d'eau dans l'océan, extrêmement chère, extrêmement inefficace. Mais en plus, elle tue les gens qu'elle est censée sauver. On avait raconté ici la semaine dernière que 5 personnes étaient mortes écrasées sous une palette de bouffe. Hier, 12 personnes se sont noyées pour essayer de mettre la main sur un colis qui était tombé en mer, pendant que 6 autres mouraient étouffées dans une bousculade, provoquée elle aussi par la perspective de s'emparer d'un peu de nourriture tombée en parachute. Tout ça est tellement ridicule et finalement contre-productif que le Hamas, qui, rappelons-le, gouverne la bande de Gaza, a demandé juste de cesser les parachutages. A dit non, mais arrêtez vos conneries. Alors le Hamas, c'est pas nos amis, mais s'il y en a qui pensent que c'est juste des sadiques qui n'agissent que par, euh, que pour faire le mal, qui ont égorgé des bébés le 7 octobre pour le seul plaisir de voir la population de Gaza mourir sur les bombes. Bon, c'est quand même, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le Hamas, c'est une organisation politique et militaire. C'est pas nos potes, c'est certain. Mais en gros, la population de Gaza, c'est leur base électorale. Ils ont pas plus que ça intérêt à ce qu'il y en ait des tonnes qui crèvent de faim. Et si aujourd'hui c'est le Hamas qui demande de cesser les parachutages, c'est bien parce que les parachutages font réellement plus de mal que de bien, mais ce qu'on arrive très bien à comprendre en plus. Alors rappelons qu'il serait mille fois plus simple de laisser passer les centaines de camions remplis de nourriture qui attendent à tous les points de contrôle autour de Gaza. Rappelons que si les États-Unis voulaient ça, s'ils avaient vraiment à cœur de nourrir les Gazaouis, il leur suffirait de menacer Netanyahou de lui couper les vivres si les camions passaient pas, et Netanyahou accepterait très vite. Mais les États-Unis ont préféré dire que non, ils en avaient rien à foutre, qu'ils allaient continuer à envoyer des avions bombarder Gaza avec des palettes de bouffe. En fait, ça a une sorte de cohérence, finalement. Ils aident leur allié Israël à tuer quelques Palestiniens en plus. Vous allez me dire, oui, mais cette fois, c'est pas pareil, maintenant, les Ricains, ils sont abstenus à l'ONU. Ça a été possible, grâce à leur abstention, de voter une résolution qui exige un cessez-le-feu. En plus, c'est une résolution contraignante. Alors, s'il y en a qui n'avaient pas encore capté depuis hier, c'est vrai. Juste, il faut bien comprendre ce que ça veut dire le mot « contraignante » dans ce cas-là. Et donc, il faut préciser que rien, ni personne, ni aucun moyen n'est prévu pour contraindre. Et que, depuis la résolution, à part un petit spectacle de brouille d'ambassadeurs, rien, absolument rien, n'a changé.
Canu Info. Du mercredi.
Et on écoute une musique. On écoute Mashrou Leila, Comrade.
صرنا نخشى العتمة اللي كنا نلعب فيها عشناو شفنا وما بقي ولا شي دهشنا عالية الموسيقى مش معقول حدا يسمعنا ولعت امبارح حاسس حالي شوي تعبان كني دايما عم بغرق بعدني عطشان دعسي عالشمال وعاليمين حط دعستين لو مش عم ببكي دمعت من التخان وبصب الكاس لبان وبشرب لوحدي من قولك من الناس رح يجي يزور لي قبري لك عندك قد حتى ولع لي سيجارتي لك شوفي حولي ناس مش ممكن كون لوحدي
Et du coup, on commence par la police française qui aurait expulsé autour de 15h. Alors, a priori, c'est sûr, mais on attendait les dernières confirmations au moment où on est rentré dans le studio, donc je le laisse aurait. Autour de 15h, donc cet après-midi, un militant kurde en direction de la Turquie. Il était enfermé au CRA de Metz depuis un mois et avait déjà été victime d'une précédente tentative d'expulsion. Mais Firaz, c'est son nom, avait alors empêché l'expulsion en tentant de se mutiler. Les comités de soutien rappelaient qu'en Turquie, le jeune homme allait sûrement finir en prison et que dans les prisons turques, les militants kurdes sont régulièrement victimes de mauvais traitements de la part des autorités. Un deuxième camarade du camarade kurde expulsé attend toujours dans les geôles françaises une expulsion qui arrivera sûrement prochainement.
Et on rappelle qu'en Belgique, sur la soirée de Névrose, donc la semaine dernière, dans je ne sais plus quel quartier exactement, des militants des Loups Gris ont attaqué le rassemblement de Kurdes qui fêtait Névrose ce soir-là. Voilà un peu pour l'ambiance en Europe.
Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, les Loups Gris, c'est une espèce de groupe fascisto, nationalisto, comment ils s'appellent, fans de leur Jean Jaurès à eux, là, de leur, je ne sais pas comment, de Atatürk, voilà.
On parle bien quand même d'une organisation turque, parce qu'on
ne
peut pas le préciser. Mais...
Ah oui, oui.
Et ben c'est pas grave, on fait sans le générique. Donc et ben il y a eu plusieurs vidéos de violences policières qui sont sorties cette semaine, qui ont eu lieu à l'encontre des migrants, et ça se passe tout d'abord à Paris, où on voit débarquer la police à 3h du matin faisant clignoter leurs puissantes lampes torches dans les tentes d'un campement de jeunes afghans installé sur les quais de Seine près de Jaurès. Alors ça nous rappelle un peu les scènes il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, des camions de CRS qui déboulaient vers les squats à Calais avec de la musique à fond, pareil aux alentours, enfin bref, en pleine nuit pour réveiller les gens. Bon, cette fois-ci, poussés à bout par les flics, les jeunes commencent à protester, informent qu'ils n'ont nulle part où aller à part sous les tentes près de la Seine. Les flics ont répondu en gazant leurs affaires à l'intérieur des tentes. Un des jeunes a donc décidé pour pousser sa protestation de mettre le feu à sa tente et à ses affaires pleines de gaz lacrymogène. Ce n'est évidemment pas un cas isolé. Dans un rapport publié par le collectif interassociatif Accès aux droits, le collectif rapporte de nombreux cas recensés. Depuis 2015, il n'y a pas eu moins de 448 témoignages de violences policières, dont un tiers concerne des violences physiques allant du simple coup de pied au passage à tabac, et un autre tiers concerne des confiscations ou destructions de biens. Donc ça arrive en général sur les tentes. La plupart des violences, donc là on parle bien de Paris et sa région, quoi. La plupart des violences se passent tard la nuit, loin des caméras et des témoins potentiels. Autre lieu connu pour ces violences policières à l'égard des exilés, bien sûr, c'est le Nord et la région de Calais. Maintenant, quand on parle de la région de Calais, c'est vraiment au sens très large, que comme la pression policière s'est vraiment accrue à Calais, les exilés stratégiquement s'éloignent de plus en plus des zones de contrôle pour échapper à la police. Cette fois-ci, encore une fois, c'est le groupement de médias du Monde avec Lighthouse Report, The Observer et le Der Spiegel qui sont quand même plutôt à la pointe sur ces questions-là pour sortir des enquêtes. Cette fois-ci, ils sortent une enquête sur les méthodes dangereuses que pratiquent la police et la gendarmerie française dans la Manche pour intercepter les tentatives de passage vers l'Angleterre. Si officiellement en France, la police a interdiction formelle d'intercepter les embarcations en mer, dans les faits, cette interdiction n'est pas du tout respectée. D'après les témoignages qui ont pu être récoltés, il y a celui de Zico, 16 ans, qui essaye de passer depuis 5 mois pour franchir la Manche et rejoindre l'Angleterre. À chaque fois, c'est le même mode opératoire. La police les arrête juste avant d'embarquer et crève les bateaux pneumatiques. Là, c'est à peu près le plus soft qu'on peut avoir. Mais il y a 2 semaines, lors de sa dernière traversée, la police a fait barrage à l'embarcation alors qu'ils étaient en mer. Le bateau avec à son bord 5-6 policiers s'approche du canot et le perce. À bord, une cinquantaine de personnes paniquées, dont des enfants, tenus à bout de bras parce qu'ils ne se noient. Les adultes, eux, ont de l'eau jusqu'à le niveau de la poitrine. Ils sont tous sortis vivants de ce naufrage créé par les forces de l'ordre, mais ce témoignage vient donc contredire la version officielle de la préfecture du Nord-Pas-de-Calais et de toute façon la version officielle nationale. C'est pas de mesure de coercition des embarcations en mer, sauf que d'après les journalistes ayant enquêté, des faits utilisant les mêmes méthodes que décrites par Zico ont été employés depuis juillet 2023, isolant le fait que le témoignage de Zico serait anecdotique parmi tout ce qui peut se passer en mer dans cette zone-là. Ces opérations sont même enregistrées par le ministère de l'Intérieur sous le nom de, je cite, interception en mer. C'est dire à quel point les autorités redoutent les contre-pouvoirs. Vous savez, ces contre-pouvoirs qui sont régulièrement, ces derniers temps, pointés du doigt, comme la Défenseur des droits ou d'autres associations, pour dire qu'ils empêchaient la police de faire du travail. C'est-à-dire que là, même le ministère de l'Intérieur a tellement peur des contre-pouvoirs qu'ils nomment clairement un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est-à-dire des interceptions en mer, pour les dénombrer. La Défenseur des droits, elle, fait état de 4 saisines concernant ces interceptions en mer en 2022 et 2023. Là, autre affaire, l'IGPN a également été saisie en automne 2023 d'une enquête préliminaire suite à un signalement du parquet de Boulogne-sur-Mer. Bon, là, si vous êtes un peu perdu sur les allers-retours des signalements des parquets et de l'IGPN, c'est normal, moi aussi. Mais ce qui est important de relever, c'est que ce signalement a été effectué par un garde-côte douanier, également représentant du syndicat Solidaire. Alors, ce que rapporte Rémi Van de Planck, qui n'est d'autre que le douanier garde-côte, donc c'est un peu rigolo de s'appeler douanier, d'avoir Planck dans son nom, mais bon. Est assez hallucinant. Le 11 août 2023, un gendarme va demander aux sauveteurs de la SNSM, donc on le rappelle, la SNSM, ce n'est d'autre que la Société Nationale des Sauvetages en Mer, d'aller l'aider à percer un bateau au large de la plage de Berck-sur-Mer avec une dizaine de personnes à son bord. Donc, oui, vous y avez l'image, un gendarme va voir les sauveteurs et dire « Eh, vous voulez pas venir avec moi, j'ai du sale boulot à faire ?» Bon, bah voilà, bien évidemment, ils refusent. Mais leur chef de bord, donc le chef de bord des sauveteurs, a eu l'intelligence d'exprimer vivement son refus via la VHF, donc c'est la radio maritime, afin que ses propos soient enregistrés par le CROSS, donc qui n'est autre que le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, qui donc enregistre et consigne tous les appels, enfin bref, tous les échanges radio à ce moment-là, donc ce qui a permis un peu d'appuyer le signalement de ce garde-côte qui a entendu ça à la VHF. Dans une autre vidéo prise par des donc là hop, on change d'histoire hein. Dans une autre vidéo prise par des passagers datant d'octobre 2023, on voit le puissant bateau de la police nationale manœuvrer à grande vitesse proche du bateau, c'est-à-dire très très proche, afin de créer de grandes vagues et de faire rentrer de l'eau dans l'embarcation et de la faire volontairement tanguer afin de faire peur à aux personnes à bord. La manœuvre en plus d'être particulièrement dangereuse, risque de faire chavirer à tout moment le canot. Or, comme le précise Le Monde et comme on peut le voir dans la vidéo, le bateau de la police n'est pas du tout dimensionné pour conduire des opérations de sauvetage. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez la gueule de ces bateaux, mais c'est des espèces de semi-rigides. C'est-à-dire que c'est des bateaux avec deux énormes moteurs derrière qui sont très puissants. Le bateau est assez léger et ils sont semi-rigides parce que c'est presque un Zodiac, mais la coque du fond est rigide et il y a quand même un boudin, mais ce qui fait que le bateau est assez petit, donc il n'a pas du tout de quoi pouvoir accueillir 10 personnes à son bord. Même un ancien officier de la Border Force britannique, connu pour ses prises de position contre les migrants, a été choqué en visionnant la vidéo. Alors bon, on imagine que dedans il y a toujours un peu des espèces d'histoires entre la France et l'Angleterre, et vouloir dire que la France est pire que l'Angleterre. Mais quand même, il cite « Elle me rappelle ce que les Grecs faisaient à la frontière maritime avec la Turquie. » Alors on ne sait pas pourquoi ils utilisent le passé par contre, parce qu'ils le font toujours. « Je suis surpris que les Français fassent cela, car c'est contraire à leur interception du droit à la mer. » Côté autrichien, un politique autrichien commente également, je le cite, les Français sont poussés à jouer le même rôle dans la Manche que celui que l'Union Européenne offre aux pays africains. Paris reçoit beaucoup d'argent des Anglais pour empêcher les migrants de partir ou les arrête en mer. Alors en voyant les vidéos, c'est assez évident. La police française, quand elle est confrontée aux mêmes injonctions que ses collègues grecs, turcs ou italiens, utilise les mêmes méthodes meurtrières. La seule raison pour laquelle les agissements des gardes-côtes grecs ou libyens sont particulièrement odieux, ce n'est pas par excès d'humanité que notre police serait plus douce, c'est simplement parce qu'elle a choisi de déléguer le sale boulot à ses gardes-côtes. Le 10 mars 2023, Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak signent un accord. Londres verse 543 millions d'euros à la France pour stopper les bateaux. Là, c'est Londres qui délègue à la France de faire le sale boulot. D'ailleurs, sous pression de Londres, une brèche est ouverte concernant cette interdiction d'interception en mer. Une directive ouvre la possibilité de ces interceptions en mer à condition que les embarcations se situent à 200 mètres du littoral. Comme si à 200 mètres du littoral, les noyades n'étaient plus possibles. Et bien sûr, ceci est conditionné à cibler les passeurs. Donc là, on se demande un peu comment c'est possible d'aller intercepter un bateau en mer et de cibler le passeur dans le bateau, si tant est qu'il y a un passeur dans le bateau, et de ne pas mettre la vie des personnes en danger.
C'est ça. Est-ce que ça voudrait dire précisément cibler ?
Bah, non mais c'est ça qu'en fait c'est effectivement c'est le, je pense que c'est
que lui s'il se noie c'est moins grave.
Tu fais couler le bateau mais que le bateau du passeur.
Ouais c'est ça, voilà, mais en fait on sait jamais trop de toute façon ce que veut dire ce terme passeur. Enfin on sait que c'est assez large. Ouais. Dire ça va
c'est de celui qui tient le gouvernail.
Bah il y a ça.
C'est
notamment
comme sur un bateau, celui qui tient le gouvernail c'est le capitaine. Bah quand le bateau n'est pas légal, c'est le passeur.
Bah on sait que, en tout cas, dans les cas d'arrestation, il y a eu ouais, ça, non, des gens qui tenaient le moteur.
Ah non, mais on dirait que je fais une blague, mais...
mais il y a aussi le bah, du coup, il y a celui qui va gérer tout plein de choses, mais effectivement, ça va à celui qui dit, ah bah vas-y, moi je peux chez manier un moteur, du coup, soit je paye moins, soit je paye pas, soit... Enfin bref, Donc effectivement, on ne sait pas comment, comment c'est possible. On sait aussi qu'il n'y a pas de bateau rempli de passeurs qui traversent la Manche. Enfin bref, voilà,
ils
tout ça.
Les passeurs tous ensemble pour trafiquer.
Voilà, et de toute façon, et l'autre condition c'est, étant de ne pas mettre la vie des personnes en danger. Et là, l'enquête précise bien que dans tous les cas, dans toutes les vidéos qu'on a pu voir, bah, en fait, toutes ces conditions-là n'étaient pas respectées. Et voilà, donc...
Ça sage.
Et ben c'est fini.
Et du coup, on a fini avec un petit peu d'avance.
Qu'est-ce qu'on peut rappeler aussi à la manif de samedi, la manif contre les expulsions qui risque de reprendre à la fin de la trêve hivernale. Voilà. Non, oui, j'ai pas le lieu sous les. Attendez, bougez pas. Appel à manifester, samedi 14 mars, devant la préfecture du Rhône, quai Victor, côté, donc c'est au niveau du quai, quai Victor aux gagneurs, et voilà. C'est contre les expulsions et pour un logement digne pour tous et toutes. Et sachant que c'est un week-end, un gros week-end fanfare, plein de fanfares de toute la France révolutionnaire se retrouvent, et ben, a priori, ça risque d'être une manif plutôt festive.
C'est les fanfares qui sont révolutionnaires ou il y a une France alternative et tout le monde débarque?
Les deux, mon capitaine.
Radio Canu.
C'était le Canu Info du mercredi.